BPM. Élections législatives 2022.
Bienvenue sur BPM si vous venez de nous rejoindre. Les élections législatives auront lieu le 12 et 19 juin prochain. À cette occasion, BPM vous propose des émissions spéciales. Les candidats pour la 8e circonscription des Yvelines viennent répondre à nos questions. Et nous accueillons ce matin notre dernier invité, Michel Vialet, candidat LR et député sortant de la 8e circonscription. Michel Vialet, bonjour.
Bonjour et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de BPM.
Alors vous avez 62 ans, vous êtes député sortant, vous avez été maire de Mantes-la-Jolie de 2005 à 2017, conseiller général de 2009 à 2013. Vous êtes donc candidat à votre propre succession. Pourquoi vous décidez de vous représenter, Michel Vialet ?
Eh bien d'abord parce que je considère que les 5 ans qui viennent de s'écouler n'ont pas permis de faire avancer tous les sujets qui me semblent des sujets capitaux pour l'avenir de notre pays, voire de façon plus large pour l'avenir de la planète. Je veux parler notamment des sujets d'environnement qui m'ont fortement mobilisé pendant toutes ces 5 dernières années, puisque en qualité de membre de la commission développement durable et aménagement du territoire, c'était des sujets extrêmement centraux et des sujets qui me préoccupent beaucoup.
On aura le temps d'en reparler pendant cette émission. Alors, qu'avez-vous pensé de l'élection présidentielle ? Emmanuel Macron, 58,55%, Marine Le Pen, 41,45%.
Écoutez, d'abord, ce qu'on peut dire de cette élection présidentielle, c'est qu'elle s'est manifestée par une absence totale de débat sur le bilan de M. Macron, et ensuite une absence totale de débat sur ce qu'étaient les propositions de l'ensemble des candidats. Et ça n'a pas permis d'avoir vraiment, pour l'ensemble des électeurs, une vision de ce que chacun pouvait proposer. Deuxièmement, tout le monde l'a constaté, au second tour, il y a eu un certain nombre de votes qui se sont portés sur M. Macron, qui a été élu. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont voté pour lui ont voté par adhésion à son projet. Et on peut fortement considérer que ça a été par rejet de la candidate qui se présentait contre lui.
Mais aussi, cette même candidate a quand même fait 41% ce coup-ci.
Oui, bien sûr. Mais cela veut dire surtout quelque chose. Ça veut dire que M. Macron n'a pas la légitimité suffisante de façon à pouvoir porter les projets de réforme très importants qui sont nécessaires pour notre pays.
Eh bien, on va y revenir. On va rentrer dans le vif du sujet justement maintenant. Que pensez-vous du pouvoir d'achat ? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer le pouvoir d'achat des habitants du Mantois ? 5,2% d'inflation.
Monsieur Macron, pendant son quinquennat, a fait subir aux Français un matraquage fiscal considérable. Et ce matraquage, qui s'est traduit notamment par une hausse sans précédent des taxes, et notamment les taxes sur les carburants, par une hausse de la CSG, il a gelé la revalorisation des retraites. Ce sont surtout tous ceux qui ont besoin de leur voiture, tous ceux qui n'ont pas forcément de hauts revenus, qui ont été fortement impactés par les décisions de M. Macron et de son gouvernement. Aussi, une des premières propositions que je soutiendrai, ce sera bien sûr la baisse sur les taxes des carburants. D'ailleurs, le mouvement politique auquel j'appartiens a posé clairement l'objectif d'€1,5 maximum à la pompe. Deuxièmement, et je viens de l'évoquer, les retraites ont été gelées et moi je souhaite que l'on puisse revaloriser les retraites en fonction de l'inflation, bien sûr. Pour ce faire, il faut qu'il y ait une réforme qui soit portée. Mais j'imagine que vous m'en poserez la question
Tout à l'heure. Justement, puisque c'était la question d'après.
Juste un point, je vais finir. Il y a une autre décision qui peut être prise immédiatement, c'est celle de défiscaliser les heures supplémentaires. Et ça permet de redonner ces trois points, c'est-à-dire baisser les taxes sur les carburants, revaloriser les retraites et défiscaliser les heures supplémentaires, ça permet de redonner immédiatement du pouvoir d'achat aux Français, sans attendre forcément tout le temps de loi qui viendrait ensuite pour pouvoir faciliter, conforter les revenus des Français.
Et le prix de l'énergie ?
Le prix de l'énergie, c'est la même chose. Vous avez un certain nombre de taxes qui sont portées dessus, et c'est cela sur lequel il faut jouer.
Alors, justement, on en parlait. La retraite, êtes-vous pour ou contre la retraite à 65 ans ?
D'abord, en préalable, je veux dire qu'on ne peut pas penser que toutes les années d'espérance de vie que nous gagnons sont forcément des années qui vont être vécues au crédit des autres. La réalité, c'est qu'on ne peut pas non plus dire qu'il doit y avoir un âge à partir duquel on serait en retraite ou pas. Je préférerais qu'on parle d'une durée de travail, parce que c'est pas la même chose lorsqu'on est un carreleur et qu'on a commencé à travailler à 16 ans, qu'on a le dos cassé. C'est pas la même chose que d'avoir 40 ans de travail que lorsqu'on commence à travailler à 25 ans et qu'on travaille dans un bureau. Évidemment, la pénibilité n'est pas la même. Donc je pense qu'il vaudrait mieux déjà raisonner en termes d'années de travail et ensuite en termes de pénibilité. Cela dit, il faut forcément qu'à un moment donné, on puisse équilibrer les régimes de retraite. Ceux qui disent que il suffit, comme l'un des candidats dit qu'il faudrait mettre la retraite à 60 ans, c'est juste impossible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le système sera économiquement déséquilibré et ça veut dire que pour le compenser, eh bien, il faudra forcément qu'on ait recours à l'impôt ou qu'on ait recours à l'emprunt. Et ça, c'est exactement ce qui impactera notre jeunesse.
Bah, l'emprunt, ces deux dernières années, on a emprunté beaucoup quand même. Hein.
Alors, M. Macron, vous avez raison de le souligner, a augmenté la dette de façon considérable. On ne le sait pas toujours, mais la dette en France, c'est plus de 3 000 milliards d'euros. Et lorsqu'on ne tient pas compte de l'effet Covid, M. Macron a néanmoins eu un niveau de dépenses publiques supérieur à ceux de M. Hollande. C'est dire qu'il était encore plus dépensier. Et ce n'est pas le Covid. C'est vraiment le fait qu'il n'y a pas eu de réformes qui ont été engagées, de réformes qui sont absolument nécessaires, de façon à pouvoir rééquilibrer les comptes de la nation. Sinon, on transfère de la dette à nos gosses et on transfère de l'impôt qu'ils auront à payer pour nous.
Alors, on va revenir dans le Mantois avec une question d'actualité. Je la pose à tous les candidats. Êtes-vous pour ou contre la construction de la maison d'arrêt de Magnanville ? Alors, vous, on sait que vous êtes contre.
Alors, moi, je l'ai dit très clairement dès l'information que, comme tous les habitants du Mantois, j'ai découvert dans les médias, j'ai pris position immédiatement contre, pour plusieurs raisons. D'abord, on ne peut pas décréter des choses comme ça sans aucune concertation préalable, de façon à ce qu'on puisse avoir les informations suffisantes et puis que l'on puisse raisonner, travailler ensemble. Mais surtout parce que cet endroit est très très mal choisi. On ne peut pas décréter du jour au lendemain qu'on va mettre une prison de 700 détenus à 200 mètres d'un lycée et à 300 mètres des habitations.
C'est plus que Bois d'Arcy, il me semble.
Certainement. Mais la localisation est complètement inappropriée. Moi, je suis favorable à la construction de places de prison. D'abord parce que il faudrait que tous les détenus, enfin que tous ceux qui sont condamnés à des peines de détention puissent les exécuter. Je rappelle qu'un condamné sur deux n'exécute pas sa peine de détention. Mais il ne faut pas la mettre là. Pour ma part, j'ai fait une proposition au service de l'État pour qu'on puisse la situer à l'endroit d'anciennes carrières qui appartiennent au cimentier Calcia et à côté de ce lieu, il n'y a pas de riverains et d'impact qui seraient les mêmes que ceux de Magnanville.
Alors, la candidate Ensemble nous dit que de toute façon, quand l'État décide, on ne peut rien faire.
Écoutez, si elle pense que c'est comme ça, je pense qu'elle ne va pas être d'un grand intérêt si jamais elle était aux fonctions auxquelles elle aspire. La réalité, c'est que si on pense que quand l'État décide, il n'y a rien à faire, elle va avoir exactement le même réflexe pour l'ensemble des décisions de l'État. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Alors, je sais que tous les candidats d'Ensemble ont été à devoir signer une charte pour dire qu'ils ne s'opposeraient pas aux décisions du gouvernement. C'est dire comment est-ce que finalement ils vont là-bas juste pour lever la main lorsque le gouvernement proposera une loi ou une décision quelle qu'elle soit.
Ah bah justement, vous, est-ce que vous avez levé la main ces 5 dernières années ? Est-ce qu'on peut faire le bilan ?
Ah, le bilan, en quelques minutes, ça va être assez compliqué.
On va essayer.
J'invite tout le monde à le retrouver, évidemment, sur mon site, puisque je l'ai fait, je l'ai communiqué à tout le monde il y a plus de 6 mois, déjà. Si je devais retenir quelques points, c'est surtout les actions que j'ai pu mener en faveur de l'environnement et dans mon combat contre le plastique en particulier. J'ai présidé une mission sur les perturbateurs endocriniens dans les contenants plastiques, alimentaires et cosmétiques. Et j'ai pu à cette occasion voir comment est-ce que le plastique était de façon forte, avec les additifs qu'il comporte, à l'origine de pathologies qui sont graves. Cancer, diabète, obésité, maladies de la fertilité, neurodéveloppementales, et j'en passe. Et j'ai pu constater d'ailleurs à cette occasion que la loi sur l'économie circulaire qui avait été présentée par le gouvernement était très en deçà de ce qu'il fallait faire. En clair, il n'y avait à aucun moment une volonté de réduire le plastique. C'est pour ça que, d'ailleurs en préambule, vous me demandiez pourquoi je me présentais, et je pense que l'action est encore à mener de façon forte, parce que le plastique, c'est vraiment dramatique.
Alors, nous allons passer à votre programme. On va parler santé, justement. Vous désirez créer plus de postes de soignants et revaloriser ces métiers de soignants et relocaliser la production de médicaments en France.
Alors d'abord, il faut créer plus de postes de soignants, d'autant plus que c'est exactement le contraire qui s'est passé pendant ces 5 dernières années. Y compris d'ailleurs, pas que sur les postes de soignants, y compris sur les moyens. Je rappelle que contrairement aux engagements pris dans le cadre du Ségur de la santé, le gouvernement a continué à fermer des lits et pendant la période Covid, on a fermé 10 000 lits. Deuxièmement, on n'a pas assez de soignants, il faut créer des postes de soignants. Et moi, je propose que l'on en crée 25 000. En France, et notamment dans l'hôpital, il y a la caractéristique d'avoir entre 25 et 30% de personnel administratif. C'est beaucoup plus que dans nos pays voisins, puisque lorsqu'on va regarder en Allemagne, on est plutôt entre 15 et 18% de personnel administratif. En clair, on a un grand nombre de collaborateurs, pardonnez-moi, qui font du reporting, font de l'administratif, de façon à pouvoir renseigner l'Agence nationale de santé, les ministères. Et pendant ce temps-là, on n'a pas assez de soignants qui s'occupent des patients. Je propose qu'on fasse exactement le contraire et qu'on revienne à un étage qui soit satisfaisant. Pour ce qui est de la revalorisation des métiers de santé, on a tous constaté, et d'ailleurs les différents médias s'en sont fait l'écho, nous avons des personnels qui sont globalement moins bien payés également que ce que l'on peut trouver en Europe. C'est donc, alors que nous sommes au pays où on a toujours voulu mettre la santé devant, et c'est une bonne chose, il faut absolument qu'on revalorise la métier de nos soignants, qui sont des fois dans des contraintes absolues, parce que non seulement ils s'occupent des difficultés que rencontrent les autres, mais ils ont en plus de ça pas de reconnaissance, puis des conditions de travail, il faut bien dire, qui sont tout à fait déplorables. Quant à la relocalisation de la production de médicaments, il est assez facile de penser que les plans d'investissement qui sont portés avec des soutiens de l'État devraient se porter sur ce que sont des points importants pour notre souveraineté. Or, pouvoir se soigner, avoir la production de médicaments en France est quelque chose d'assez capital.
Alors, on va revenir sur un combat que vous avez mené dès votre arrivée à l'Assemblée nationale. C'est le projet de carrière cimentière au cœur du parc du Vexin français. Le projet a été abandonné, mais vous voulez que les ministres concernés abrogent ces autorisations. Pourquoi y aller jusque-là? Pourquoi aller si loin?
Alors,
le projet, il est abandonné.
D'abord, je ne prendrai pas le... Pardonnez-moi, mais j'ai un chat dans la gorge.
Allez-y.
D'abord, je n'emploierai pas ce verbe d'abandonner. Le président du groupe Calcia France a écrit au préfet des Yvelines pour lui dire, je cite, qu'il renonçait à mener à bien son projet d'exploitation de carrière à Brueil-en-Vexin. Son projet, c'est-à-dire le projet en cours. Ça veut dire quoi? Parce que le diable est dans les détails. Que d'abord, il ne cite pas les trois autres communes sur lesquelles les autorisations sont données, c'est-à-dire Guitrancourt, Sailly et Fontenay-Saint-Père. Je rappelle que cette autorisation, elle court sur 550 hectares. Au cœur de notre parc naturel régional. Deuxièmement, renoncer à ce projet ne veut pas dire qu'il n'est pas en capacité de pouvoir en déposer un autre, puisque les autorisations dont je parle, elles courent jusqu'en 2029. Il a largement le temps de déposer d'autres projets et, éventuellement, d'en transférer le droit, ce droit d'exploiter, à des tiers. Aussi, le seul moyen de faire qu'on ne puisse plus imaginer qu'on vienne creuser des carrières cimentières au cœur du parc, c'est d'abroger ces autorisations. Et donc, il revient au ministre de la Transition écologique et de l'Économie et des Finances de pouvoir abroger ces autorisations.
Donc vous allez...
Je bagarrerai pour cela, comme j'ai bagarré pour que le projet actuel puisse ne pas être mené à bien. Si je le dis autrement, on a gagné une bataille, on n'a pas gagné la guerre.
Allez, on passe ensuite à l'enfance. On va revenir sur votre programme. Vous indiquez dans votre programme que vous souhaitez rebâtir l'école de la République. C'est-à-dire?
Écoutez, Monsieur Macron a dit dans ses promesses du précédent quinquennat qu'il aurait une priorité vis-à-vis de l'école. Moi, je constate que, quand on regarde les chiffres de l'éducation, 15% des enfants qui rentrent en sixième, 15% ne savent pas lire et écrire correctement. Ce sont les basiques. Quand on rentre au collège et qu'on n'a pas la connaissance minimale de ces bases-là, comment peut-on imaginer poursuivre ses études? Il est donc capital qu'on puisse faire d'une priorité l'apprentissage des fondamentaux, lire, écrire, compter.
Mais comment on fait? Parce que depuis des années, tous les programmes, tous les 3 ans ou tous les 5 ans changent, sachant Dès qu'il y a un nouveau ministre, il y a des une nouveauté. Ça, c'est la professeure de mon fils qui m'expliquait ça.
Écoutez, je pense que l'école que nous connaissions il y a quelques années et qui produisait beaucoup plus de jeunes qui savaient lire, écrire, compter en sortant, n'a pas besoin d'être beaucoup réinventée. Il faut peut-être regarder ce qu'étaient les vieilles recettes qui fonctionnaient bien et où on était concentré sur ces sujets-là. C'est la première chose. Il faut certainement qu'il y ait plus de moyens à l'école et qu'en plus de ça, on puisse revaloriser le travail des enseignants. Là aussi, nos enseignants ne sont pas, n'ont pas un travail qui est très valorisant. D'ailleurs, on observe qu'il y en a beaucoup qui ne se sentent plus en phase avec leur vocation initiale. Et quand on voit qu'il y a des recrutements maintenant qui sont des recrutements où on ouvre avec des niveaux de diplôme inférieurs à ce que c'était auparavant, on peut vraiment penser que le métier d'enseignant n'est plus du tout attractif. Il faudrait également qu'on redonne de l'autorité à l'école. Nos enseignants n'ont plus d'autorité, on ne leur demande plus non plus de transmettre les valeurs de la République. Ce sont des sujets sur lesquels il faut absolument que l'on puisse changer, que l'on puisse revenir à ce qu'était notre fonctionnement auparavant avec des gosses qui savent lire, écrire, compter en sortant de l'école primaire.
Passons à un autre volet de votre programme, la sécurité. Vous voulez augmenter les moyens et les effectifs des forces de l'ordre.
Bien sûr qu'il faut les augmenter. Et puis pour les augmenter, il faut là aussi réduire le travail administratif qu'on leur demande. Parce qu'ils passent beaucoup de temps à faire de la paperasse et pas assez de temps sur le terrain. Et vous savez, plus on bureaucratise, plus on renforce le travail administratif, eh ben, plus évidemment ça empêche que l'on puisse avoir le cœur du métier. Le cœur du métier, c'est d'être sur le terrain. Donc il faut absolument renforcer les forces de police, ce qui n'a pas été fait pendant tout ce quinquennat. On a renforcé parfois le travail administratif, mais pas le reste.
Vous voulez accélérer la justice et également protéger plus efficacement les femmes victimes de violences?
Oui, le groupe Les Républicains a présenté un projet de loi qui d'ailleurs a été adopté à l'unanimité, contre les violences, enfin dans la lutte contre les violences faites aux femmes, qui s'appuyait sur des principaux points qui sont d'abord les bracelets anti-rapprochement, les téléphones grave danger et le raccourcissement des procédures qui permettent de protéger ces victimes. Force est de constater que plus d'un an après que cette loi ait été passée, le gouvernement n'a pas mis en place les crédits nécessaires pour acheter les matériels. Je parle des bracelets électroniques et des téléphones grave danger. On doit en avoir 1000 en France. Enfin, c'est ridicule. Des pays voisins comme l'Espagne en ont plus de 4000 et ont pu montrer que justement ça avait un effet d'efficacité par rapport dans le cadre de cette lutte contre les violences faites aux femmes. Donc bien évidemment, je souhaite qu'il y ait un travail particulier et des lignes budgétaires spécifiques qui puissent rapidement permettre ces acquisitions de matériel.
Alors, vous voulez défendre également notre agriculture et restaurer la sécurité alimentaire en interdisant l'importation de produits qui ne respectent pas les normes que nous avons en France. On ne va plus manger grand-chose.
Je vais militer et je militerai pour deux choses. Renforcer la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. La souveraineté, c'est que, contrairement à ce qu'il y avait il y a quelques années, nous ne sommes plus souverains, c'est-à-dire que nous dépendons pour un certain nombre de choses de ce que l'on va chercher à l'extérieur. Et la deuxième chose sur la sécurité alimentaire, c'est-à-dire sur la qualité de notre alimentation, on est en France à avoir des normes qui sont très importantes et qui viennent protéger efficacement les consommateurs, mais on n'est pas exigeant des mêmes normes pour les produits qu'on va importer d'autres pays. Regardons ce qu'on va importer parfois d'Asie ou d'Amérique du Sud, les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Donc ça veut dire que non seulement on mange mal un certain nombre de choses, mais qu'en plus de ça, on défavorise nos agriculteurs. On ne le sait pas toujours, mais il y a un tiers des agriculteurs qui n'ont comme revenu qu'un niveau RSA. C'est dramatique, alors que ce sont eux qui doivent nous nourrir, devraient nous permettre de retrouver cette souveraineté alimentaire. On a délaissé la politique agricole, clairement. Et je vais donc militer pour que nos agriculteurs non seulement soient défendus, et soient défendus sur ces deux points de sécurité et de souveraineté alimentaire.
Merci Michel Viollet d'avoir accepté notre invitation.
Mais merci à tous les auditeurs et auditrices de BPM. C'est dommage que nous n'ayons pas plus de temps.
Mais au deuxième tour, si vous l'êtes. On vous réinvitera.
Mais à très vite alors.
Cette interview sera rediffusée à 13h et 18h30 et vous pourrez la retrouver en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com. Rubrique élections législatives. À noter que nous avions contacté Anne Sicard de Reconquête et Mélanie Bécono, des patriotes. Elles ont toutes deux décliné notre invitation et n'ont donc pas accepté de bénéficier de leur temps de parole pour venir s'exprimer et présenter leur programme sur notre antenne. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de BPM.
BPM, élections législatives 2022.